Monsieur le Génistie, par le Père Philippe à Saint-Joseph, le 22 mai 85.
Je continue Saint-Jean, bien que ce soit les mystères douloureux, mais que nous vivrons les mystères glorieux, et que nous vivons les mystères glorieux, mais c'est bien. Que nous savons que ces mystères chevauchent les uns par rapport aux autres. Alors, je reprends chapitre 18 dans Saint Jean pour essayer de découvrir toujours les anéantissements de Jésus, les grands anéantissements. J'avais commencé. Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Kédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Alors les pères de l'Église ont mis toujours en parallélisme ce jardin avec l'Éden. Il ne faut pas l'oublier, c'est un parallélisme qui est très beau. Vous voyez, le premier jardin de joie que Dieu a donné à l'homme. Et ce jardin de douleur où Jésus va porter comme agneau de Dieu pour tous les hommes. Puisque l'agonie, c'est Jésus qui prend la responsabilité sur lui de toute l'iniquité du monde et qui veut apparaître en face du Père comme portant cette iniquité du monde. Il l'a portée toute sa vie, c'est bien évident, mais dans le mystère de l'agonie, il le porte d'une manière plus forte. Ça explique cette tristesse, cette espèce de méta-angoisse dans l'âme de Jésus. Je crois qu'il faut dire une méta-angoisse. Quand on dit angoisse, on risque de regarder le point de vue psychologique. Alors, ce n'est pas d'ordre uniquement psychologique, c'est d'ordre beaucoup plus profond. C'est d'ordre divin, c'est un mystère l'agonie. L'angoisse n'est pas un mystère. Dieu peut se servir de l'angoisse au point de vue psychologique pour nous permettre d'atteindre certains aspects du mystère de l'agonie de Jésus. Mais l'angoisse comme telle n'est pas un mystère. Que ce soit un problème, oui, il y a un terrible problème. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est tellement difficile de préciser. L'agonie, on sait d'où ça vient. C'est Jésus, comme agneau de Dieu, qui porte l'iniquité du monde. Et donc qui porte toutes les conséquences du péché. Et qui se présente au Père comme responsable de toute l'humanité. Alors je crois que selon l'évangile de Saint Jean, je vous l'ai déjà dit, selon l'évangile de Saint Jean, chaque fois que Jésus, durant sa vie apostolique, se trouve en présence de son heure, il entre dans l'angoisse, dans cette méta-angoisse, dans ce mystère de l'agonie. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Saint Jean, nous le voyons bien, que dans l'entrée triomphale à Jérusalem, subitement, Jésus entre dans l'agonie. Chaque fois qu'il est en présence de son heure. Et c'est pour ça que Cana va mettre immédiatement Jésus en présence de son heure, devant la demande de la femme, devant la demande de Marie. Et ce mystère de l'agonie implique cette prière. Saint Jean n'en parle pas dans Saint Luc. Mais il nous a montré, dans l'entrée triomphale à Jérusalem, comment il y avait cette prière de Jésus, cette demande de Jésus, et en même temps, ce désir d'accomplir pleinement et totalement tout ce que le Père veut. Maintenant, mon âme est toute troublée. Donc, chapitre 12, verset 26. Maintenant, mon âme est toute troublée. Que dire, Père ? Sauve-moi de cette heure. Mais voilà pourquoi je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et le double mouvement de l'âme de Jésus que saint Jean montre et que saint Luc montre d'une manière encore plus explicite. Et alors là, c'est quelque chose de très important pour nous, de saisir ce double mouvement, à la fois le mouvement de Jésus qui veut glorifier le Père, et par là, il est attiré vers le mystère de la croix. Et en même temps, ce trouble, cette angoisse qui étreint le cœur de Jésus en présence de son heure, en présence du calice qu'il doit boire. Alors, il y a là tout un grand mystère qu'il faut essayer de comprendre. Je crois que ce n'est pas suffisant de dire que Jésus est dans l'angoisse à cause de la proximité de sa mort. Je crois que ce n'est pas suffisant. Ça serait resté trop dans un point de vue purement humain. C'est vrai, ça existe, mais la mort a été acceptée dès le point de départ. Je sais très bien que c'est la proximité de la mort qui donne le tremblement et qui donne peur et qui peut provoquer l'angoisse. La proximité de la mort nous met dans l'angoisse. Alors on pourrait dire que Jésus a accepté sa mort, mais que dans la proximité de la mort, il entre dans cette angoisse. Je ne crois pas que Jésus demande au Père que la mort de la croix soit écartée. Je ne crois pas. Je crois que ça c'est accepté. Mais ce que Jésus demande au Père, c'est que la manière dont doit se réaliser le mystère de la croix puisse être autre. Autrement dit, le calice, c'est la croix dans sa réalisation plénière. C'est-à-dire, c'est le mystère de l'Holocauste du Christ avec la présence de Marie. C'est là où je me pose la question. Est-ce que ce n'est pas cela que Jésus demande au Père que soit écarté? Il accepte pleinement la souffrance pour lui. Mais être source de souffrance pour sa mère, c'est la chose la plus terrible. Être source de souffrance pour ceux qu'on aime, c'est toujours la chose la plus terrible. Et c'est ce qu'un cœur magnanime, un cœur royal, veut écarter. On accepte de porter tout pour nous-mêmes. Mais on ne peut pas accepter d'être source de souffrance pour un autre, quand on sait que cela peut être évité. Et c'est vrai. Jésus peut réaliser pleinement le mystère de la rédemption. Jésus n'a pas besoin de Marie. Il peut réaliser pleinement le mystère de la rédemption. Et parce qu'il peut réaliser pleinement le mystère de la rédemption, il demande au Père d'être le seul à le porter. Et je crois que ceci, ça fait partie, vous voyez, de cet abîme d'amour du cœur de Jésus et de la noblesse de son cœur. Il peut réaliser la croix seul, il veut la réaliser seul. Il y a un petit signe de cela, un petit signe assez net dans l'évangile de saint Jean. C'est que au moment où les Juifs décident de tuer Lazare parce qu'il est témoin de ce geste extraordinaire de la résurrection de Jésus à son égard. Donc il est témoin de cet amour tout puissant de Jésus. Il est témoin que Jésus est un envoyé du Père. Et donc, on veut faire disparaître Lazare. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus se livre. Donc c'est très significatif. Jésus ne veut pas qu'un autre meure à cause de lui. Alors, ça nous aide à comprendre que Jésus, dans son cœur d'homme, ne veut pas être source de souffrance pour Marie. Et ça, nous pouvons le dire, hein, et je crois que nous devons le dire. Jésus, dans son cœur d'homme, a voulu épargner sa mère. Jésus, dans son cœur d'homme, a voulu que l'Église soit épargnée du mystère de la croix. Jésus, dans son cœur d'homme, a voulu que chacun d'entre nous, nous soyons épargnés des souffrances de la croix. Il est la tête, il est le roi. Or, en s'offrant lui-même, il peut nous racheter tous. Et donc, il demande cela au Père. Vous voyez, c'est la demande suprême que Jésus peut faire au Père. Et le Père veut autre chose. Et Jésus s'en remet à la volonté du Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et la volonté du Père, c'est que le mystère de la croix soit source d'autres croix. C'est-à-dire que le mystère de la croix s'empare du cœur de Marie dans le mystère de la compassion. Que le mystère de la croix s'empare de toute l'Église et de chacun d'entre nous. Ça, c'est la volonté du Père. Pourquoi cette volonté du Père? C'est pour que Marie soit plus unie à Jésus. Alliance de l'époux et de l'épouse. Or, le propre de l'alliance de l'époux et de l'épouse, c'est que l'épouse doit réaliser la même œuvre que l'époux. Autrement, elle n'est pas l'épouse. C'est l'exigence propre de l'amour d'amitié. C'est que l'ami fasse la même œuvre que son ami. Surtout quand il s'agit d'une souffrance, d'un holocauste d'amour. Pour que Marie soit pleinement épouse, il faut qu'elle vive le même mystère que Jésus. Autrement, elle serait petit enfant de la croix, entièrement sauvée par la croix, mais elle ne serait pas l'épouse. Et ce serait la même chose pour toute l'Église. Et donc l'alliance de l'époux et de l'épouse ne se réaliserait pas. C'est l'exigence même de l'alliance de l'époux et de l'épouse qui réclame le mystère de la compassion. Sponsabo in fide, in justitia, in misericordia, in justitia. Cette parole du prophète Osée. Et le prophète Osée, c'est celui qui annonce l'alliance de l'époux et de l'épouse. Et le prophète Osée montre que cette alliance de l'époux et de l'épouse se réalise selon ces trois modalités. Sponsabo in fide, je t'épouserai dans la foi, je t'épouserai dans la miséricorde, je t'épouserai dans la justice. Et ceci se trouve réalisé pleinement et totalement dans le mystère de la compassion. Et à travers le mystère de la compassion, pour toute l'Église, et donc pour chacun d'entre nous, selon le bon plaisir du Père. Je crois que le mystère de l'agonie, avec la prière de Jésus, nous révèle, vous voyez, cette sorte de rivalité profonde dans l'amour. L'exigence de l'amour humain et l'exigence de l'amour divin. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Aussi éloigné le ciel de la terre, aussi éloigné les voies de Dieu des nôtres. Selon l'exigence de l'amour humain, l'ami veut épargner son ami. s'il est capable de tout porter lui-même et lui seul. Il veut épargner. Selon les exigences de l'amour divin, l'amour divin réclame l'unité dans l'amour et dans l'holocauste de l'amour. Pour que l'amour puisse aller plus loin. Pour que par l'holocauste de l'amour, l'amour puisse aller plus loin. Je crois que c'est très important de comprendre cela, parce que c'est deux visions totalement différentes, vous allez comprendre, dans le mystère de la rédemption. C'est deux visions totalement différentes. Dans la perspective de la demande de Jésus, c'est le mystère de la rédemption vu en premier lieu du côté de la justice. Et c'est normal que le cœur royal du Christ veut tout porter et veut épargner sa mère. C'est de la noblesse et c'est de la grandeur d'âme. Si le sacrifice de la croix était premièrement un sacrifice de justice, le Père aurait écouté la demande de son Fils. Si le sacrifice de la croix est premièrement un sacrifice d'amour, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, qu'il a donné son Fils. Si le sacrifice de la croix et de la rédemption est premièrement une œuvre d'amour, alors à ce moment-là, nous comprenons la volonté du Père. Parce que dans l'ordre de l'amour, il faut aller le plus loin possible. Pas dans l'ordre de la justice. Dans l'ordre de la justice, c'est toujours ce qu'il y a de plus précis et de plus rigoureux. C'est le propre de la vertu de justice. Tandis que dans l'ordre de l'amour, c'est toujours ce qui doit aller le plus loin dans l'ordre de la miséricorde et de l'amour. Alors nous comprenons ce dialogue dans la prière entre le Père, entre le Fils et le Père. C'est Jésus qui demande que sa mère soit épargnée. Mettez en parallèle, si vous voulez, pour mieux comprendre, parce que c'est sûrement un très très grand moment. Chaque fois que Jésus s'adresse au Père, c'est toujours un grand secret qui est révélé. Ça ne peut pas être autrement, un secret du cœur de Jésus. Mettez en parallèle la prière d'Abraham pour Lot, pour Sodome et Gomorre. Et ce serait important de les mettre en parallèle, ce serait intéressant de voir ce parallélisme entre les deux. Abraham plaide la justice et la miséricorde dans la justice. Il reconnaît la justice, mais il demande que le Père ait pitié. Et le Père ne peut pas faire la miséricorde parce que il n'y a même pas un pour la recevoir. On ne peut faire la miséricorde que s'il y en a un qui la reçoit. Autrement, on ne peut pas. La miséricorde, ça se fait à deux. Il faut un pauvre qui reçoive la miséricorde. Ici, Jésus réclame du Père que le mystère de la croix soit réalisé pleinement et totalement par lui et par lui seul. Et le Père veut la miséricorde. Et là, il y a quelqu'un qui est capable de la recevoir, c'est Marie. Et c'est pour ça que le mystère de la croix se réalise comme une œuvre de miséricorde et d'amour. Si Marie n'avait pas été là, le mystère de la croix aurait pu être uniquement un mystère de justice. Et Marie permet que le mystère de la croix soit un mystère de miséricorde et d'amour. Et donc qu'il aille le plus loin possible. Et que Marie soit associée au mystère de la rédemption. C'est important, vous voyez, parce que on sait très bien Port-Royal, Luther, voit dans le mystère de la rédemption en premier lieu un mystère de justice. Et ça explique la conception particulière qu'ils ont vis-à-vis du mystère de la rédemption. L'Église a toujours vu en premier lieu le mystère de la rédemption comme un mystère de miséricorde et d'amour. Et c'est pour ça qu'on peut dire, voyez, que Jésus est l'unique médiateur du côté de la justice. Il faut maintenir cela. Il n'y a qu'un seul médiateur au niveau de la justice, Jésus. Il est l'unique médiateur du côté de la justice. Parce que seul Jésus peut supporter la justice du Père. Pensez à ce que dit la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Elle a très bien vu ça. Elle a vu qu'il ne fallait pas du tout s'offrir en victime de justice, qu'il fallait s'offrir en justice de miséricorde et d'amour. Jésus seul peut s'offrir en victime de justice, parce qu'il peut supporter la justice propre de Dieu étant Dieu. Et donc Jésus est l'unique médiateur du côté de la justice, mais du côté de la miséricorde, puisqu'il y a une surabondance, il peut y avoir une médiation qui s'ajoute à celle de Jésus et qui est celle de Marie. Marie est médiatrice dans l'ordre de la miséricorde, en présupposant la médiation justice de Jésus. Il faut toujours être très net là-dessus. Et c'est très important pour bien comprendre ce que nous dit Saint Luc et ce que nous dit Saint Jean à propos de ce mystère de la méta-angoisse de Jésus, de ce mystère de l'agonie. Nous découvrons comme les deux aspects du cœur de Jésus, celui qui est l'envoyé du Père et qui ne fait que la volonté du Père et qui veut aller jusqu'au bout dans l'accomplissement de la volonté du Père. Et celui qui est la tête, le roi, responsable de tous les hommes en face de Dieu. Les deux sont intimement liés dans l'unité, mais il y a quand même deux aspects différents. Jésus, comme envoyé du Père, ne veut qu'une seule chose, c'est que la volonté du Père s'accomplisse. Et Jésus, en tant que tête de l'humanité et tête de l'Église, connaît notre fragilité. Et comme il est capable de tout porter, il demande au Père que ce calice s'éloigne, c'est-à-dire qu'il soit le seul à porter. Et je crois que si nous ne voyons pas ça, il y a quelque chose du cœur de Jésus que nous ne comprenons pas par rapport à nous. Il connaît notre fragilité. Il connaît la fragilité de l'Église. Il connaît la fragilité de Marie. La fragilité de la créature. Et c'est pour ça qu'il réclame que ce calice s'éloigne. Mais immédiatement, il se remet dans le bon plaisir du Père. Il est le Fils bien-aimé en qui le Père met toutes ses complaisances. Et donc il s'en remet entièrement au bon plaisir du Père. C'est donc à partir, voyez, de ce mystère de l'agonie que nous comprenons cette attitude filiale de Jésus à l'égard du Père, cette obéissance filiale. C'est dans l'obéissance que Jésus va à la croix. C'est pour accomplir pleinement la volonté du Père, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est pour cela que je suis venu. C'est pour cette heure. Et donc toute la volonté du Christ est toute tendue à l'accomplissement plénier de la volonté du Père. Le mystère de la croix apparaît tout de suite comme un mystère d'obéissance. C'est dans l'obéissance que Jésus va vers la croix. Et pour bien nous faire comprendre que cette obéissance est tout à fait libre, comme toujours, toute véritable obéissance qui se fait à partir de l'amour, nous voyons comment Jésus, face à Judas, c'est l'affrontement de Judas à l'égard de Jésus. Nous avons déjà vu cet affrontement dans le lavement des pieds. Mais là, c'était Jésus qui prenait l'initiative. Ici, c'est Judas qui a pris l'initiative. Et Jésus accepte le baiser de Judas. C'est par un baiser que Judas trahit. Voyez le mensonge. Et le mensonge pratique dans un signe d'amour. Et par là, il indique celui qu'il faut arrêter. Parce qu'on pourrait se tromper. On pourrait prendre un disciple à la place de Jésus. Ça n'irait pas du tout. Les grands prêtres ne seraient pas du tout satisfaits. Et donc il faut indiquer qui est Jésus. Et le signe, c'est le baiser fraternel. Jésus nous montre ici, à travers l'évangile de saint Jean, qu'il accepte librement d'être arrêté. Et qu'il l'accepte pleinement. Il va jusqu'au bout dans cette obéissance, hein, tout à fait libre. Il a la toute-puissance du Père à son service. Il pourrait s'en servir. Il pourrait échapper très facilement. Il aurait pu le faire avant. Il savait très bien ce qui se passerait. Mais même quand les autres sont là, il veut montrer qu'il peut exercer la toute-puissance du Père contre ceux qui l'arrêtent. Et donc, s'il accepte d'être prisonnier, c'est librement. Il y avait là un jardin dans lequel il entra ainsi que ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait aussi l'endroit, parce que Jésus s'y était souvent retrouvé avec ses disciples. Judas donc, emmenant la cohorte et des gardes, fournis par les grands prêtres, et torches et des armes. Donc, tout qui allait survenir sortit et leur dit : qui cherchons ? Donc il y a le petit enclos du jardin où s'est passée l'agonie. Puis il y a en dehors du jardin, Jésus sort du jardin. Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent, Jésus le Nazaréen. Il leur dit, c'est moi. Judas aussi qui se livrait se tenait avec eux. Quand donc Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. De nouveau donc, il les interrogea « Qui cherchez-vous ? » Ils lui dirent « Jésus le Nazaréen ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Et cette volonté de Jésus d'être le seul être. C'est pour que s'accomplit la parole qu'il avait dite, « De ceux que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. » Simon Pierre, donc, qui avait un glaive, le tira, frappa l'esclave du grand prêtre et lui trancha son petit bout d'oreille droite. C'est précis. Jean l'a vu. Cet esclave s'appelait Malchus. Jésus dit donc à Pierre, remets le glaive au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, je ne la boirai pas. C'est intéressant parce qu'il s'agit de la coupe, mais il symbolise de la coupe. Dans l'Apocalypse, on parle des symbolismes de coupe. Et sûrement que les coupes de l'Apocalypse doivent se comprendre en fonction de cette coupe. La cohorte donc, et le tribun, et les gardes des Juifs saisirent Jésus. Ils le lièrent et l'amenèrent chez Anne d'abord. C'était en effet le beau-père de Caïphe, lequel était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, « Mieux vaut qu'un seul homme meure pour le peuple. » Donc on voit la complicité d'Anne et de Caïphe, la complicité du Sanhédrin, la complicité des pharisiens, des grands prêtres. Et on voit la liberté de Jésus. C'est librement qu'il accepte d'être ligoté comme un criminel. Et on n'a pas porté de jugement. C'est contraire à la loi d'arrêter un homme comme un criminel sans l'avoir jugé. Et donc, on enfreint la loi. C'est très important de comprendre ça, parce qu'on ne peut pas comprendre la suite si on ne voit pas cela. Jésus a été ligoté par violence. Et je crois, cette manifestation de la toute-puissance de Dieu qui fait que ces soldats sont arrêtés, sont projetés, montre bien que nous sommes en présence d'hommes qui n'ont aucune autorité et qui font ça selon leur propre gré, au moins celui de Judas et celui des grands prêtres, parce que les autres suivent, sont des mercenaires, ils sont payés. Jésus donc, librement, accepte de se présenter devant tous comme un esclave. Il a perdu tous ses droits. Il est traité comme un criminel de droit commun, qu'on rejette et qu'on a le droit de rejeter. Et là, c'est la première injustice, La première injustice, elle est là. Et les grands prêtres sont complices. Et non seulement ils sont complices, mais c'est peut-être eux qui ont pleinement accepté ce que Judas leur proposait. Simon Pierre, suivez Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre. Il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors ici aussi, un petit détail très intéressant entre Simon, Pierre et Jean. Jean est connu du grand prêtre. Et donc il peut entrer dans la cour. Les deux seuls qui suivent Jésus, c'est Pierre et Jean. Les deux seuls. Si on voit un tout petit peu le trajet du Cédron à Saint-Pierre-aux-Liens, il y a des chances que ce soit là où a eu lieu cette première interrogation de Jésus. Jésus est mené, ligoté du jardin de Gethsémani auprès de Caïs et de Anne. Et quand il est là, Simon-Pierre arrive, Jean arrive, Jean peut pénétrer, il est connu. Et à cause de Jean, Pierre pénètre. Tandis que Pierre se tenait près de la porte dehors, l'autre disciple, celui qui connaissait le grand prêtre, sortit donc, parla à celle qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Vous voyez tous ces petits détails extrêmement importants et qui sont très significatifs. C'est Jean qui introduit Pierre dans la cour du grand prêtre. Parce qu'il fait froid. Il ne veut pas laisser Pierre seul. Lui, il peut y entrer. La servante qui gardait la porte dit donc à Pierre, « Ne serais-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ?» La curiosité de la servante. Et pauvre Pierre, il est dans un climat actuellement où il n'a plus aucune force. La souffrance, faut bien comprendre l'état dans lequel se trouve Pierre. Pierre est très très généreux, d'une très grande générosité. Et vous savez très bien que les gens très généreux, quelquefois, quand ils sont complètement abattus, n'ont plus rien comme énergie. Leur énergie part entièrement dans un sens. Elle est mobilisée dans un sens. La générosité de Pierre, c'est de couper un petit bout d'oreille de Malchus. C'est là, il est très généreux. Alors, il est prêt à continuer le combat autant qu'il fallait. Mais le ricanement de la servante, le jugement de la servante, il faut entendre comment la servante a dit. Demandez au Saint-Esprit la note. La servante qui gardait la porte du dit donc à Pierre, ne serais-tu pas toi aussi des disciples de cet homme? Alors qu'est-ce que tu vas faire ici? Celui-ci dit, je n'en suis pas. Les esclaves et les gardes qui avaient fait un feu de braise parce que le temps était froid, se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Quand on est triste, on a froid facilement. Ça, c'est bien évident. Quand on a beaucoup de joie dans le cœur, on peut supporter. Mais quand on est triste, et Pierre est terriblement triste, c'est très mal fini. Et Pierre ne comprend pas. Il aurait défendu les gens. Il aurait aimé pouvoir donner sa vie pour Jésus. Et Jésus lui l'interdit. On est toujours très mal dans sa peau quand on vous arrête dans un geste de générosité. Et Jésus a arrêté Pierre dans un geste de générosité. Remets le glaive au fourreau. Alors Pierre n'y comprend plus rien du tout. Mais Naxa ne voit pas d'autre chose qu'il peut faire. Il ne voit pas la vraie fidélité intérieure. Il voit que la fidélité matérielle, extérieure, il faut se défendre. Puisqu'on fait la violence à l'égard de Jésus, faisons la violence. Il ne comprend pas la fidélité que réclame Jésus. Et le fait que Jésus lui ait dit « Remets le glaive au fourreau », ça le désarme complètement, non seulement au point de vue physique, mais au point de vue moral. Ça, il faut bien comprendre la situation. C'est du reste pour ça que Pierre n'est pas condamné. Il y a des quantités de circonstances atténuantes pour quelqu'un de la générosité de Pierre. Le grand prêtre, donc, interrogea Jésus. Alors, ce qui est très beau, vous voyez, c'est cette manière dont Jean nous montre la cour du grand prêtre. Jésus qui entre auprès des grands prêtres. Et on voit les deux simultanément. Pendant que Jésus est interrogé par le grand prêtre, La servante interroge Pierre. Et les esclaves et les gardes qui avaient fait un feu de braise parce que le temps était froid, se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Il aurait dû prier. Le grand prêtre donc interrogea Jésus sur ses disciples, sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, c'est ouvertement que j'ai parlé au monde. Moi, j'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple, où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? » Extraordinaire, ça. On interroge Jésus, c'est Jésus qui revient. Il faut bien comprendre cela. Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se tenait là donna un coup à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, témoigne au sujet du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» C'est important de saisir la réaction de Jésus en face de ce soufflet. Jésus nous dit que si on nous frappe sur une joue, il faut présenter l'autre joue. Et Jésus ne fait pas ça. Vous voyez, comme c'est important dans l'évangile de toujours voir les affirmations de Jésus et son attitude qui ne correspond pas toujours. Nous avons déjà vu ça à propos du chapitre 6, après la multiplication des pains. La foule qui a bien mangé, tout son sou, du petit pain frais et du poisson, veut proclamer Jésus roi. Et Jésus n'accepte pas et s'en alla tout seul. La foule, le jour des rameaux, va au-devant de Jésus qui est à Béthanie et le proclame roi. Et Jésus répond. Vous voyez, il faut bien être attentif aux gestes de Jésus et ne jamais les imiter matériellement. La lettre tue, l'esprit seul vivifie. Nous n'avons pas à imiter matériellement les gestes de Jésus. On fait de grosses bêtises. Il faut les imiter par l'intention et dans le cœur. C'est ça que Jésus nous apprend. Il nous apprend à aimer d'une façon divine, pas d'une façon matérielle. Alors, c'est très net. Hein. Jésus nous dit, quand on vous frappe sur la joue, offrez l'autre joue. Jésus ne fait pas ça ici. Pourquoi ? Parce qu'on le frappe injustement. Et Jésus ne veut pas coopérer à l'injustice. Et on n'a jamais le droit de coopérer à l'injustice. Alors, on l'a frappé injustement. Jésus a parlé dignement à ceux qui l'interrogeaient, qui n'avaient plus aucune autorité sur lui et qui n'avaient qu'un pouvoir. Et en face de ceux qui ont le pouvoir, on n'obéit pas. On garde sa dignité de personne. En face de l'autorité, on obéit. Mais les grands prêtres, ou âme, veut dire caïphe, puisqu'ils ont accepté que Jésus soit traité comme un criminel, avant même qu'on l'ait entendu, ils ont été contre la loi. Et donc, ils n'ont plus aucune autorité. Et je crois qu'il y a cela que nous devons bien comprendre. Hein, parce que c'est la première fois où Jésus se trouve en face du grand prêtre, qui qui l'interroge. Le grand prêtre aurait pu faire venir Jésus avant pour savoir si ce que Jésus disait était digne de foi, si ce que Jésus disait était la vérité. C'est la première fois où Jésus se trouve en face d'Anne et Caïphe. Et comme Anne et Caïphe ont usurpé par rapport à leur autorité, ils doivent se soumettre à la loi. Or, ils ne se sont pas soumis à la loi. Ils ont arrêté Jésus injustement. C'est Nicodème qui a soulevé cela, hein, au moment où on voulait arrêter Jésus, au moment où le Sanhédrin voulait l'arrêter. Et Nicodème a soulevé l'opposition. On n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un sans l'avoir entendu. On n'a pas le droit d'avance de dire il est condamné. Or, en l'arrêtant, on considère qu'il est condamné. On considère qu'il est un malfaiteur. Et donc, si Anne et Caïphe ont usurpé, ils n'ont plus d'autorité sur Jésus. De toute façon, ils n'ont pas d'autorité sur Jésus, mais dans la mesure où Jésus respecte la loi, Jésus aurait respecté leur autorité de grand prêtre. Mais parce que, de fait, ils ont fait un acte qui est contraire à la loi, ils ont perdu leur autorité. Et c'est pour ça que Jésus répond d'une manière d'homme à homme, dans toute la dignité de la personne humaine. Moi, c'est ouvertement que j'ai parlé au monde. Puisqu'on interroge Jésus sur son enseignement. Mais il n'a qu'à demander à ceux à qui il avait enseigné. Moi, c'est ouvertement que j'ai parlé au monde. On n'a pas le droit de recommencer un enseignement pour quelqu'un qui est incapable de le recevoir. Ou qui le reçoit dans une attitude de haine et d'opposition. Enseigner, c'est un acte de miséricorde. Si enseigner est un acte de miséricorde, on n'a le droit d'enseigner qu'aux pauvres qui désirent recevoir la vérité. Mais quelqu'un qui ne veut plus recevoir la vérité et qui se met dans une attitude d'opposition, on n'a pas le droit de jeter des perles aux pourceaux. On n'a pas le droit d'enseigner quelqu'un qui, de fait, n'est que matériellement quelqu'un qui écoute. On n'a pas le droit. C'est très délicat pour nous, hein, parce que c'est difficile, au-delà des apparences, de découvrir l'intention profonde. Pour Jésus, il le sait bien. On n'interroge pas du tout pour connaître la vérité. Ils ont perdu autorité et ils n'interrogent pas en vue de la vérité, mais ils interrogent en vue de le condamner. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas le droit de donner les perles aux pourceaux. Moi, c'est ouvertement que j'ai parlé au monde. Moi, j'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple où tous les juifs se réunissent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, qui ont entendu. Ils savent, eux, ce que moi, j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se tenait là donna un coup à Jésus. Nous savons comment Jésus le dit selon un ton très net, d'homme à homme. C'est ainsi. Tu réponds au grand prêtre, donc tu manques de piété filiale. C'est ça que ça veut dire. Tu manques de respect. Tu oublies qu'il est grand prêtre. Et tu réponds réponds au grand prêtre comme tu répondrais à n'importe qui t'interrogerait. Ce qui est parfaitement vrai. Puisque le grand prêtre a perdu son autorité. Il n'a plus d'autorité vis-à-vis de Jésus. Il a enfreint la loi. C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui répondit, si j'ai mal parlé, témoigne au sujet du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Ça, c'est très net. Jésus n'accepte pas cet affront. Jésus n'accepte pas cette attitude de celui qui n'a pas, qui ne reconnaît pas la dignité de l'homme. Il n'a pas le droit de donner un soufflet à quelqu'un qui se conduit dignement. Ainsi donc, Anne l'envoya donc lié à Caïphe, le grand prêtre. Donc vous voyez, c'est très important de comprendre que face à Anne, Jésus ne livre aucun de ses secrets. Et l'attitude de Jésus est nette. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit donc, ne serais-tu pas toi aussi de ses disciples? Celui-là nia et dit, je n'en suis pas. Un des esclaves du grand prêtre, qui était un parent de celui dont Pierre avait retranché le bout de l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu, moi, dans le jardin avec lui? De nouveau donc, Pierre nia. Et aussitôt, un coq chanta. Rappelez-vous ce que Peggy dit hein, à propos de ce coq qui chante. Hein. Et c'est très vrai, c'est très étonnant que Dieu ait lié la fragilité de Pierre. C'est la fragilité de Pierre. Et le chant du coq. C'est Jésus qui a fait ce lien. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire simplement oui, parce que le coq chante à cette heure-là, tôt le matin, et que c'est la nuit que ça se passe pour bien nous montrer à quelle heure ça se fait. C'est vrai, ça, petit détail historique très important. Ça montre jusqu'à quelle heure, de fait, on a retenu Jésus. C'est sûr. C'est donné pour ça, mais il y a autre chose, je crois. Il y a la fidélité du coq. C'est extraordinaire, hein. Vous savez, Malraux dit cette chose très étonnante, moi qui m'éclaire beaucoup là-dessus. Malraux qui n'est pas un père de l'Église, hein, mais qui est intelligent. Malraux dit cette chose très étonnante quand il dit, quand on a... Après ces combats d'aviation, quand on a bombardé une ville, on n'a eu qu'une seule chose, c'est destruction, destruction. Et qu'on remonte dans les airs et qu'on découvre le vol des oiseaux migrateurs qui n'a pas bougé d'un pouce. Là, c'est très étonnant, ça. La nature, déterminée autonome, selon l'instinct. C'est ça la fidélité du coq. Hein? Et l'homme capable de trahir, capable de détruire, qui trahit et qui détruit. Comparativement à la fidélité de la nature. Il y a quelque chose comme ça, j'en suis sûr, hein, qui nous est montré ici. Un coq qui chante. Après que Pierre fut mis trois fois. Et Jésus a voulu unir les deux. Vous voyez, pendant que Jésus est rejeté, des grands prêtres, Pierre le trahit trois fois. fait partie hein, des kénoses du Christ, ça fait partie des anéantissements du Christ, que celui qui normalement devait défendre Jésus, celui qui a l'autorité après Jésus, et donc celui qui doit être le plus proche de Jésus, de fait, il le renie. Et le respect humain, c'est le respect humain de Pierre, ça. Respect humain des hommes généreux. Respect humain des hommes qui ont le sens de l'autorité. Respect humain de ceux qui... Oui. Qui jouent un certain rôle. Et dont le rôle n'est pas entièrement assumé par l'amour, la finalité. Alors à ce moment-là, ils sont fragiles. Il y a une triple fragilité qu'on nous montre de Pierre. Trois fois de suite. Au moment précis où Jésus est rejeté des grands prêtres. On amena donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Donc, sans doute entre deux, Jésus a été enfermé dans la prison. Je vous avais dit, Marthe, dans sa vision sur le mystère de Jésus, a vu cette prison à Saint-Pierre, au lien. C'est pas historique, hein, c'est une vision, donc, une vision intérieure, personnelle, mais c'est assez beau, quand même, pour nous. Jésus a été là, du chant du coq au petit matin, mais le matin, du prétoire, hein. Le matin de Pilate, après son petit déjeuner, c'est bien évident. Pilate n'aime pas qu'on le dérange trop tôt. Donc il doit avoir le moment où on peut le déranger, en bon romain, et représentant de César. Tu devais t'habituer à des scènes comme ça. C'est sûrement pas la première, on le voit très bien. Pilate est de mauvaise humeur. C'était le matin. Mais eux n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. On montre la fidélité à la loi face à cette opposition vis-à-vis de la personne de Jésus. Là aussi, c'est extraordinaire. Et on est tous comme ça. On peut avoir des fidélités limitées et à côté des aveuglements énormes. La fidélité à la loi ne donne pas la lumière. Si cette fidélité est une fidélité matérielle. J'observe la loi. Je formalise l'observation de la loi. Ça ne donne pas la lumière. C'est une obéissance matérielle. Et l'obéissance matérielle ne donne pas la lumière. Qu'est-ce qui donne la lumière? C'est l'amour à l'égard des personnes qui dépassent la loi. Le sabbat est-il pour l'homme ou l'homme est-il pour le sabbat? Toujours la grande question. Mais eux, là, c'était très significatif, ça. Et c'est Jean qui dit ça. Jean comprend tout ça avec une telle force. Il montre ces circonstances particulières. Mais eux n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc dehors vers eux. C'est Pilate qui va vers Jésus et dit: « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Alors vous voyez qu'ici, on va être en face de la mauvaise humeur de Pilate, mais Pilate n'a pas péché. Pilate n'a pas commis d'injustice. Et Jésus va répondre à Pilate. Alors nous avons là un passage extrêmement intéressant que nous verrons la fois prochaine, pour préciser les rapports de la religion et de l'État, de la foi et de l'autorité politique. C'est sûrement un des passages les plus étonnants au bois du théologique.